Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit accent quelque peu différent du vôtre. Quoique j'ai du sang suisse, puisque mon papa venait de la Suisse et qu'il est parti missionnaire au Québec. Donc, je suis à moitié suissesse, à moitié canadienne. Mais j'ai vécu au Canada, plus précisément au Québec, toute ma vie. Et avant de commencer, je vais me présenter un petit peu parce que je fais parfois référence à certaines choses que je vis. Puis c'est comme ça, mais vous saurez, me comprendrez peut-être un petit peu plus. Alors, je m'appelle Suzanne Bernet et je suis mariée avec mon mari, Pierre Munger, depuis bientôt 40 ans. Nous avons deux filles. Je vous parlerai probablement d'une de mes filles, Marie-Jade et Anne-Françoise, qui sont maintenant des adultes. Et je suis très heureuse d'avoir ces deux merveilleuses filles-là dans ma vie. J'étais enseignante et directrice d'école pendant 35 ans. Je suis maintenant à la retraite depuis 5 ans. J'ai 62 ans. Je vois des gens qui se posent la question. Et depuis plus de 20 ans, on est aussi directeur d'un camp de vacances qui s'appelle le Camp Brochet, qui est un camp axé sur l'évangélisation, où on reçoit, oui, de la clientèle chrétienne, mais tout autant de clientèle qui ne viennent pas de familles chrétiennes. Alors, j'ai le privilège de travailler auprès de ces enfants-là et aussi de travailler avec une équipe, un personnel. Cette année, on avait 126 personnes qui sont venues travailler dans le courant de l'été avec nous. Alors, je travaille beaucoup aussi avec des jeunes. Et, bon, avec les jeunes, avec les enfants, on est aussi très impliqués à notre église, qui s'appelle l'Église évangélique de Chicoutimi. Donc, on est à 200 km environ de Québec, au nord de Québec. Et c'est ça, donc je travaille aussi, je suis impliquée, je m'occupe de l'école du dimanche. On a 70 enfants dans notre église, donc il y a beaucoup d'enfants, je m'occupe d'eux. Donc, je suis entourée d'enfants, de jeunes adultes. Je travaille aussi avec des personnes, des nouveaux arrivants au Québec, avec les femmes qui se joignent à notre église. Donc, je travaille avec différentes personnes. C'est un privilège immense. Et quand Elda a communiqué avec moi, c'était le printemps passé, puis elle me... Bon, on se connaissait déjà par d'autres voyages qu'on a fait ici. Puis elle me dit, « Ah, il y a une conférence pour femmes, puis aimerais-tu venir conférencière? » Puis là, bon, il n'y avait pas nécessairement de sujet précis, mais elle m'a dit, « Ah, dans le comité, on a eu le mot « transmission » en tête. » Après, elle m'a parlé aussi d'influence. C'était les mots à dire pour me convaincre de venir. Mis à part le mot « enfant », peut-être que c'est les mots qui étaient les plus susceptibles de me convaincre de venir. Parce que je travaille beaucoup avec des générations plus jeunes que moi, et avec des plus vieux aussi, parce qu'on peut aussi avoir un impact dans la vie des plus vieux. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur ce désir-là, il y a plusieurs années, d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Et de me demander souvent, quand je vois des gens dire « quel impact je peux avoir dans la vie de ces gens-là? » Alors oui, on est tous des gens qui influencent les autres. Veux, veux pas, en côtoyant des gens, on les influence. Mais on peut aussi être des influenceurs un peu plus intentionnels. Et c'est ce désir-là que j'ai eu. Dans mon travail en tant qu'enseignante, je ne pouvais pas parler de Dieu avec mes élèves. C'était impossible pour moi de leur dire, interdit, de leur dire que je croyais en Dieu et que c'était ce qu'il y avait de plus important dans ma vie. Mais j'ai toujours essayé de trouver des façons de leur démontrer, d'être, comme Elda nous le disait, d'être un miroir qui reflète Dieu. Et entre autres, dans l'amour que j'avais pour eux. Il y a souvent des enfants un peu plus difficiles dans le milieu scolaire, des enfants que les autres enseignants disaient toujours « Ah, oh, j'espère qu'il ne sera pas dans ma classe, lui! » Est-ce que ça va le micro? Ça va le micro? OK. Alors, « J'espère qu'il ne sera pas dans ma classe! » Bien, moi, j'allais plutôt voir la directrice d'école pour dire « J'aimerais l'avoir, celui-là. » Parce que je savais que Dieu était capable de me donner de l'amour pour des enfants qui étaient peut-être un peu moins aimables. Et effectivement, à chaque fois, je n'ai pas été déçue par Dieu. Il m'a donné de l'amour pour ces enfants-là. Puis j'ai pu, même si je ne pouvais pas leur dire que je croyais en Dieu, je pense que j'ai pu leur témoigner de l'amour de Dieu. J'avais toujours une thématique aussi avec mes élèves qui parlait de l'univers, des planètes. Puis je me disais, il faut qu'à travers ça, je leur montre qu'il y a un créateur. Même si je ne peux pas leur dire qu'il y a un créateur, mais comment je peux présenter ces choses-là pour qu'ils se disent « Ouais, il y a quelqu'un d'intelligent en arrière de ça qui a créé ça, c'est tellement grandiose, tellement fantastique. » Fait que c'est, j'ai toujours, bien pas toujours, mais depuis de nombreuses années, ce désir-là de dire « Il faut que j'aille un impact, j'aille un impact positif, que j'influence positivement les gens qui m'entourent. » Et je prie pour ça, et je travaille pour ça. Alors, Elda m'a convaincue en me parlant de transmission, impact, influence. Donc, je suis ici aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à toutes une agréable journée et j'espère que ce que je vais dire va avoir aussi un impact dans votre vie. Je veux mettre au clair quelque chose. Si je désire avoir un impact et influencer les autres, ce n'est pas parce que je pense que je suis meilleure que les autres. Aucunement. Je ne suis pas meilleure que les autres. Je suis quelqu'un qui a ses faiblesses. Je suis quelqu'un qui a ses défis. Et on va parler de ça tout à l'heure, du fait qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour influencer. Alors, c'est très humblement que je veux vous présenter qu'est-ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et on a mis comme titre « Douce influence, puissant impact ». Je préfère le mot « influence » que le mot « transmission ». Parce que la transmission, je vais transmettre des connaissances. Je peux vous transmettre quelque chose, je peux vous transmettre un livre que j'ai. Mais la transmission, c'est on donne quelque chose à quelqu'un qu'on a, mais je trouve que l'influence, c'est encore quelque chose qui est plus grand. Et la transmission fait partie de l'influence. Et je me suis demandé, mais ça veut dire quoi influencer? Puis en tant que bonne enseignante, je vous ai mis une définition. J'ai toujours aimé enseigner le français. Alors, l'influence, c'est la capacité qu'a une personne à orienter, modifier, guider les pensées, les émotions et les comportements d'une autre personne, que ce soit par ses paroles, ses actions ou simplement son exemple. Alors, modifier, orienter, guider les pensées, les émotions, les comportements. Parfois, c'est volontaire. Parfois, c'est involontaire. Et j'aime qu'on ait associé le mot « douce » parce que l'influence, c'est quelque chose qui se fait tout en douceur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va imposer. C'est quelque chose qui se fait tout en douceur. À côtoyer quelqu'un, on est influencé par cette personne-là. Alors, l'influence oriente, modifie, guide, mais contrairement au pouvoir, elle n'impose rien. Je vous ai mis une petite analogie en vous montrant que l'influence, c'est comme un vent. Je ne parle pas d'une tornade, je parle d'un petit vent qui souffle. Tandis que le pouvoir, c'est plus comme un mur de briques. Alors, l'influence, un vent qui souffle doucement, qui oriente dans une direction qu'on peut prendre ou qu'on peut refuser de prendre. On peut refuser de suivre le vent. Mais pensez à quelque chose quand le vent souffle, puis il y a une feuille par terre, doucement la feuille avance dans une direction. Le pouvoir, il est comme un mur. Il s'impose à nous. On doit s'y conformer, on n'a pas le choix. Je ne peux pas continuer d'avancer dans une direction s'il y a un mur. Si notre amie Christelle avait construit son mur anti-influence, bien, on n'aurait pas pu passer à travers ce mur-là. L'influence nous oblige de prendre une direction, une autre, un peu comme un labyrinthe. On a des murs devant nous, puis on se dirige dans certaines directions, mais ce n'est pas par choix. Ce n'est pas par amour, ce n'est pas par conviction qu'on va aller dans cette direction-là, c'est parce que les gens nous imposent quelque chose. Alors, on ne veut pas utiliser le pouvoir, on veut utiliser notre influence. Et le pouvoir, je le trouve dangereux parce qu'il ne met pas l'accent sur des bonnes motivations. Il laisse sous-entendre que tu dois faire ça, tu dois faire ça. On ne fait pas les choses par amour, on ne les fait pas par désir, on les fait parce qu'on se sent obligé. Et on les fait peut-être parfois dans le monde spirituel parce qu'on pense qu'on doit faire quelque chose pour gagner l'amour de Dieu. Puis ça, ce n'est pas le cas. On n'a rien à faire pour gagner l'amour de Dieu. Et Jésus, il n'a pas utilisé le pouvoir. Jésus, il a utilisé son influence. Comme par exemple, quand le jeune homme riche est venu le voir, puis il a dit, « Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Puis Jésus lui a répondu, « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Est-ce que Jésus a obligé ce jeune homme-là à poser le geste qui est de vendre tout ce qu'il possédait? Non, Jésus n'a rien imposé. Il lui a dit, « Bien, garde, voici ce que tu dois faire. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux être heureux, je te dis quoi faire. À toi maintenant de faire le choix. » Alors Jésus, quand il a rencontré des gens, il les a laissés libres, même s'il savait que c'était un mauvais choix. Puis ça, parfois, en tant que parent, c'est vraiment difficile. Fait qu'en tant que parent, parfois, on veut utiliser le pouvoir parce qu'on veut tellement être sûr que nos enfants suivent le Seigneur, puis « Hey, tu viens à l'église, hey, tu fais ça, hey, tu vas lire la Bible ce soir avant de te coucher. » Plutôt que de les influencer. Et moi, j'ai eu cette influence-là de mes parents qui aimaient beaucoup la parole de Dieu. Et qui, je les voyais chaque jour lire leur Bible. Mon papa en bas dans son bureau, je revois ma maman, ils sont décédés tous les deux, mais assis sur sa chaise. Elle lisait sa Bible. Et tous les jours, après le souper, mon père nous amenait dans le salon et on lisait la Bible ensemble, puis il nous expliquait des choses. Et j'apprécie tellement que mes parents m'aient donné cet exemple-là. Jamais ils m'ont obligé à lire la Bible. Oui, ils m'ont dit, ils m'ont expliqué l'importance de lire la Bible pour avoir une relation profonde avec Dieu. Mais jamais ils m'ont dit, avant de te coucher ce soir, là, t'as-tu lu ton chapitre, Suzanne? Jamais, jamais ils ont fait ça. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, vous pensez? Bien, je prends plaisir à lire la Bible parce qu'ils m'ont transmis ça. C'est un legs qu'ils m'ont transmis, mais ils n'ont jamais rien forcé. Puis je vous ai amené une petite leçon d'objet ici. Alors, j'avais des feuilles de chou dans mon réfrigérateur. Alors, vous voyez cette feuille de chou-là et vous voyez celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là? Vous voyez la différence de vos places? Qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là? Elle a baigné dans un liquide dans lequel j'avais mis du colorant rouge. Et j'ai rien forcé, je l'ai juste fait baigner dans ce contenant-là. Elle est devenue rouge-rose. Mais c'est ça l'influence. C'est quelque chose qui se fait en douceur. C'est quelque chose qui, quand les gens baignent dans notre influence, ils finissent par être transformés par nous. Et c'est ce qu'on veut. J'ai essayé de ne pas renverser ce petit contenant. Ça ferait un beau dégât. Alors, je me suis posé cette question-là. Qui peut exercer une influence? Okay, dans le monde, il y a des gens qu'on appelle les influenceurs. Je ne suis pas une influenceuse. Mais qui peut exercer une influence sur les autres? En fait, on peut tous exercer une influence sur les autres. Il n'y a personne dans la salle ici qui ne peut pas avoir une influence sur les autres. Peu importe notre âge, peu importe notre statut social, peu importe notre instruction, peu importe notre quotient intellectuel même. On a tous le pouvoir d'influencer spirituellement les gens qui nous entourent. Abraham Lincoln a dit, « Dieu aime les gens ordinaires. » Il en a fait tellement. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très ordinaire. Puis Dieu aime les gens ordinaires. Les gens qui se pensent ordinaires. Les gens qui sont humbles. Dieu n'a rien à faire avec les gens qui sont orgueilleux, puis avec les gens qui disent, hey, regardez-moi. Regardez-moi là parce que moi, j'en vaux la peine. Non, Dieu veut des gens ordinaires. C'est avec eux qu'il travaille. Il aime les choses folles du monde. Il aime les choses simples. Et on le voit un petit peu. On le voit un petit peu quand Dieu est allé voir Gédéon. J'aurais pu choisir Moïse aussi. Puis Dieu va voir Gédéon, puis il dit, Gédéon, Dieu veut confier une mission à Gédéon. Puis Gédéon dit quoi? Moi? Ouh! C'est peut-être pas le bon choix. Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Dieu lui demande de délivrer Israël. Hey, mon clan, c'est le plus faible de Manassé. Puis moi, je suis le plus petit de la famille de mon père. Je ne suis pas la bonne personne, Dieu. Puis Dieu lui répond, mais je serai avec toi. Et tu combattras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Ce n'est pas qu'est-ce que nous, on peut faire. Ce n'est pas notre influence qui est importante. C'est qu'est-ce que Dieu peut faire à travers nous. Comment il peut nous utiliser pour avoir un impact positif dans la vie des gens. C'est ça l'important. Parce que si j'essaie d'influencer moi-même les autres, bien, je vais les influencer vers le mal. Mais si j'essaie de leur montrer qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie, comment Dieu me transforme, si j'essaie d'être le reflet de Dieu, comme ce magnifique lac miroir, c'est pas le lac en lui-même, c'est il reflète la montagne qui est là. Mais c'est ça qui est fantastique. Dieu cherche pas des titres. Il ne cherche pas des diplômes ou des projecteurs. Il cherche des gens qui sont humbles. Il cherche des gens qui lui sont fidèles. Et c'est ce qu'il a vu quand il a vu Gédéon. Un homme humble. Puis ses propos nous manifestent vraiment. Quelqu'un de fidèle. Si on laisse à Dieu toute la place qui lui revient dans nos vies, c'est là qu'on peut avoir une influence. C'est pas lui, c'est pas nous, c'est lui. Et quelques personnes âgées ici dans la salle? Oui, hein? Quelques personnes âgées, quelques personnes à la tête blanche. Puis peut-être que vous vous dites, « Ah oui, mais moi maintenant, j'ai plus grand-chose à apporter. Quelle influence je peux avoir maintenant? » Mais je peux vous dire que vous pouvez avoir une très, très grande influence. C'est peut-être vous qui pouvez avoir la plus grande influence. Certainement, c'est vous qui avez la plus grande influence. J'ai demandé, je travaille avec des jeunes adultes, et puis je leur ai écrit quelques temps avant de partir, je leur ai dit, écrivez-moi donc, de quelle façon vous trouvez que les plus vieux vous encouragent, vous influencent? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Puis j'ai vraiment été touchée par les choses qu'ils m'ont écrites. Ils m'ont dit que, puis écoutez bien les personnes plus âgées, qu'est-ce que les plus jeunes, c'est les jeunes entre 18 et 22, 23 ans, ils m'ont dit, mais moi, je suis vraiment touchée de voir que les personnes âgées sont encore fidèles. Sont encore fidèles à travers les années, malgré les épreuves. Parce que certains de ces jeunes-là vivent des épreuves. Ils ont le goût de laisser tomber. Ils ont le goût d'abandonner Dieu. Mais, hey, cette dame-là vient à notre église depuis 50 ans, puis elle a vécu des choses difficiles, mais elle est encore là. Elle vient encore à l'église. C'est encourageant pour les jeunes de vous voir à l'église. Il y en a une qui m'a dit, j'aime tellement ça quand les plus vieux viennent me voir pour me demander comment je vais. C'est simple. Juste aller voir la personne, lui sourire, dire, comment ça va? Puis comment ça va dans ta vie spirituelle? Y a-tu quelque chose pour lequel je peux prier pour toi? Et ça les encourage de façon extraordinaire. Ils m'ont dit aussi qu'en regardant les plus vieux, ils étaient touchés par le fait que même s'ils connaissent Dieu depuis un millénaire, ils sont encore émerveillés par ce que Dieu fait. Quand ils parlent de Dieu, leurs yeux pétillent, puis sont encore émerveillés. Vous avez cet impact-là, les gens plus vieux. Dire, oui, je connais Dieu, mais je découvre encore des choses à propos de Dieu. Puis mon cœur est encore touché par ce que je découvre. Ils m'ont dit qu'ils étaient touchés de voir que vous parlez encore avec passion. Même des fois, il y a des petits vieux. Ils parlent encore avec passion quand ils parlent de Dieu. Et que vous exprimez votre reconnaissance. C'est aussi un point qui les touche. Puis justement, je mangeais avec quelqu'un hier, puis elle me disait, on dirait plus on est vieux, plus on est reconnaissant. Puis ça, ça les touche de voir que vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu a fait, pour sa fidélité dans votre vie, mais pour les petits détails aussi de votre vie. Et ça les touche. Puis j'ai mon amie Charlie, qui a 18 ans. Elle avait parlé avec deux personnes âgées quelques jours avant de m'écrire son petit mot. Puis elle conclut son texte en me disant ça. Elle me dit, j'ai le goût de m'investir encore plus dans cette aventure avec Dieu afin de voir moi aussi comme il est bon, comme il est grand et puissant. J'étais touchée que Charlie me dise ça. Elle avait une conversation avec des femmes, je ne sais pas ce qu'il lui avait dit, et ces femmes-là n'ont sûrement pas eu connaissance de cet impact-là, mais c'était comme un moteur pour elle pour avancer dans sa vie spirituelle. « Hey, moi aussi, là, eux autres, ils ont vécu plein de choses avec Dieu, moi aussi, je veux continuer ma vie chrétienne pour voir qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il me réserve! » Ceux qui sont plus jeunes, il y a plusieurs plus jeunes aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez avoir un impact. J'ai quelqu'un que je connais qui s'appelle Stéphanie. Elle a grandi dans la même église que moi, mais elle a quelques années de moins que moi. Et pour son anniversaire de 50 ans, elle a eu un fantastique projet. Elle a décidé d'écrire à 50 personnes qui l'ont influencée pour leur dire qu'ils ont eu un impact dans sa vie. 50 personnes. Hey, c'est un beau projet pour son anniversaire de 50 ans. Je vous encourage à le faire parce que c'est toujours encourageant de se faire dire « Hey, tu as été une influence. » Il y a des personnes plus âgées hier qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Hey, à la fin de la journée, il y a des plus jeunes qui sont venus me voir pour me dire « Hey, toi, tu as été une personne d'influence dans ma vie. » Fait que Stéphanie m'envoie une lettre à moi. Puis elle est vraiment quelques années plus jeune que moi. On a grandi dans la même église. Puis, elle m'explique que je suis une des personnes qui a eu cet impact-là dans sa vie quand on était adolescente. Pourtant, je n'ai pas été l'adolescente la plus... avec toujours le meilleur exemple, mais j'étais quand même adolescente. J'avais déjà pris cette décision-là de suivre Dieu et je voulais déjà le servir. J'ai commencé à le servir assez jeune à l'école du dimanche, justement au camp Brochet, à l'âge de 16 ans. J'avais même été sa monitrice. Justement, je pense que j'avais 16 ans, puis elle en avait 14, mais il y avait une monitrice qui avait dû quitter pendant le camp parce qu'elle avait justement une mauvaise influence. Puis le directeur m'avait dit, écoute, tu vas la remplacer. Ah ouais, moi, 16 ans avec des 14 ans. Puis là, Stéphanie m'écrit, puis elle m'écrit toutes sortes de belles choses, mais... Puis elle me dit, mais je m'excuse parce que j'étais peut-être un peu envahissante, puis j'étais peut-être toujours collée sur toi, puis j'espère que tu ne m'as pas trouvée fatigante pendant ces années-là, mais ça a vraiment valu la peine parce que tu as changé des choses dans ma vie. Mais j'en avais jamais eu connaissance. Elle ne m'avait jamais dit ça. J'aurais jamais cru que j'avais eu un impact sur cette jeune fille-là. Fait que même à cet âge-là, on peut avoir un impact. Et même les enfants peuvent avoir un impact. Je suis touchée par cette histoire-là de la petite fille, la petite servante. Vous connaissez l'histoire probablement, la petite servante qui était prisonnière et qui était maintenant la servante de Naaman. Puis, elle était dans un pays étranger, elle était loin de sa famille, on ne sait même pas son nom, elle était dans un pays qui parlait une autre langue, elle était complètement déboussolée, mais elle avait encore un amour pour Dieu. Parce que ses parents lui avaient transmis cet amour-là, probablement. Elle avait un amour pour Dieu, puis elle avait un amour pour le prochain. Fait que quand elle a vu que son maître, Naaman, était malade, elle ne s'est pas dit, « Bon, mais pff, tant mieux, il mourra. C'est mon maître, il me fait, hein, il m'a enlevé de mon pays. On s'en débarrasse. » Non, elle a eu de l'amour pour lui, puis elle est allée le voir, puis elle lui a dit, hey, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Elle ne voulait pas qu'il meure. Elle voulait qu'il soit guéri. Et Naaman a suivi le conseil de cette petite fille-là. Il est allé en Samarie. Et après avoir été guéri, qu'est-ce qu'il dit? « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur terre, sur toute la terre, sauf en Israël. » Cette petite fille-là a fait que Naaman a découvert notre grand Dieu. trouve ça extraordinaire. J'ai quelques histoires d'enfants qui sont venus au Camp Brochet, qui ne venaient pas de famille chrétienne. Je pense à un petit garçon, entre autres. Il avait peut-être 12 ans quand il est venu au Camp Brochet. Il ne venait pas d'une famille chrétienne. Je ne me rappelle pas qui l'avait invité, mais il a compris des choses spirituellement. Il est retourné chez eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à sa maman. C'était une maman monoparentale. Il en a parlé à sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue chrétienne. Ce petit garçon-là, ce jeune homme-là, qui ne venait pas de famille chrétienne, qui savait très peu de choses sur Dieu, a parlé à sa maman, qui s'est convertie. Elle a pris contact avec des chrétiens. Elle s'est convertie. Elle suit le Seigneur. Fait que peu importe notre âge, qu'on soit vieux, qu'on soit d'âge moyen, qu'on soit jeune, on a tous cette capacité-là d'influencer, pour le bien. Alors, ne sous-estimez donc pas votre capacité à influencer les autres. Qui que vous soyez, vous avez ce pouvoir de les influencer. Et si vous le faites volontairement, si c'est quelque chose dont vous êtes conscient, bien, vous allez le faire, je pense, encore avec plus de puissance. Mais pourquoi vouloir devenir un influenceur? À notre époque, beaucoup de gens veulent être des influenceurs. Hein? C'est très populaire être un influenceur. Wow! Les influenceurs! Je connais quelqu'un qui a un petit-fils de 13 ans, puis dernièrement, elle l'a invité à dîner chez elle, puis elle lui a dit, « Hey, mon petit garçon, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus vieux? » Il a nommé différentes choses, mais entre autres, il a dit, « J'aimerais ça être un sportif professionnel ou un influenceur. » À ma connaissance, il ne fait aucun sport. Mais qu'est-ce qu'il traduisait avec son choix de métier, de profession pour plus tard? C'est qu'il avait le goût d'être reconnu. Il avait le goût d'être populaire, d'être vu, d'être admiré par les autres. Il avait ce désir-là. Il voit des influenceurs, il suit des influenceurs, puis il dit, « Hey, moi, j'ai le goût d'être comme lui. » Alors, les influenceurs, ils désirent être vus, ils désirent être écoutés, ils désirent être reconnus et ils désirent aussi être riches. Et connaissez-vous cette influenceuse-là? Hier, personne ne la connaissait. Christina Bazan. Non? Je ne la connais pas non plus. Je me suis dit, je vais prendre une influenceuse suisse. Les gens vont avoir plus de chances de la connaître. Mais même avec hier, je me disais, bon, il y a beaucoup de vieilles personnes ici. Je comprends qu'ils ne suivent pas les influenceuses. Mais là, il y a des jeunes. Mais je suis très contente que vous ne la connaissez pas. Parce qu'elle ne vous influencerait pas nécessairement vers le bien. Alors, mais Christina Bazan, c'est une influence. Elle vient de la Biélorussie, mais elle habite présentement dans le canton de Vaud. C'est peut-être votre voisine. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que vous avez quelqu'un d'aussi populaire dans votre entourage. Et elle parle de mode, elle parle de beauté, de musique, de voyage, le grand luxe, quoi. Puis elle influence des gens. Elle influence tellement de monde qu'elle a 2,4 millions de followers sur Instagram. Ça fait du monde, ça. 2,4 millions. C'est rien. Elle en a 33 millions d'abonnés sur YouTube. Vous ne la connaissez pas, vous êtes certain? Elle a 1,8 million de likes sur Facebook. Alors ça, c'est une influenceuse. Et les jeunes Suisses comme les jeunes Canadiens aiment beaucoup suivre les influenceurs. Je vous mets en garde. Si vous suivez des influenceurs, demandez-vous, est-ce qu'ils m'influencent vers quelque chose qui est positif? Ou est-ce qu'ils ne m'influencent pas vers quelque chose qui est positif? Mais notre objectif en tant que chrétien est complètement différent que ces influenceurs-là. Quand je vous parle d'être un influenceur, j'espère que vous n'avez pas ça en tête. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce qu'on veut, bien, ce qu'eux veulent, c'est attirer les regards vers eux, à travers des choses futiles, à travers des choses généralement très, très éphémères. Puis leur objectif, c'est rarement le bien-être de leurs followers. Ils cherchent quelque chose pour eux-mêmes. Et Matthieu 6 nous met en garde contre les gens qui font des choses pour être vus. Il les condamne. On ne veut pas faire des choses pour être vus. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dans Matthieu 6, Jésus dit, « Gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. » Hey, avez-vous vu les dons que j'ai faits cette semaine? « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. » Avez-vous entendu ma prière? Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne même pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Jamais, 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 on doit faire les choses pour attirer les regards sur nous. Ça ne vaut pas la peine. J'espère que ce que je vais vous dire aujourd'hui ne va pas attirer les regards sur moi. Ça n'en vaut pas la peine. Je suis comme vous. Mon cœur est teinté de péché. Ce que je veux et ce qu'on devrait faire, c'est d'attirer les regards vers lui. Parce que lui, il en vaut la peine. Alors, on est des influenceurs totalement différents des influenceurs du monde. Alors, pourquoi vouloir devenir influenceur? Bien, on le dit, pour attirer le regard des gens vers Dieu. Mais aussi parce que c'est ce que Jésus a démontré. Quand Jésus est venu sur la terre, il a promené un regard d'amour sur chaque individu qu'il a vu. Il a aimé les enfants. Il a été offusqué quand ses disciples ont voulu faire partir les enfants. Vos enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Il a aimé les prostituées alors qu'elles étaient rejetées de tout le monde. Il a aimé les hommes. Il a aimé les femmes. À cette époque-là, les femmes n'étaient pas vues comme aujourd'hui. Il a aimé les chefs religieux. Est-ce qu'ils étaient aimables avec lui? Je trouve qu'ils étaient aucunement aimables, mais il les a aimés. Et c'est vraiment le modèle que Jésus nous a montré. Il nous a montré à avoir une vie qui est centrée sur les autres. Je ne suis pas ici pour moi-même. Je suis ici pour glorifier Dieu. On devrait avoir une vie qui est centrée premièrement sur Dieu et deuxièmement sur ses créatures, sur les gens qui nous entourent. Ensuite, une autre raison pourquoi moi j'ai le goût d'être une influenceuse, c'est parce que c'est ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. Quel exemple fantastique! Deux belles leçons d'objet. Alors, dans le sermon sur la montagne, il a dit, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » J'ai coupé quelques versets. « Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, qu'est-ce que ça les conduit à faire? Pas à dire « Wow, vous êtes fantastiques », mais ça les amène à célébrer la gloire de votre Père céleste. Le sel de la terre. Le sel n'est pas là pour se donner de la saveur à lui-même. Hein? Le sel, il est là pour donner de la saveur à l'aliment qui l'accompagne. La lumière n'est pas là pour s'éclairer elle-même. Les faisceaux de lumière sont là pour être dirigés sur un objet ou sur une personne et éclairer cet objet ou cette personne-là. Et c'est ça qu'on est appelé à faire, donner le goût aux gens, leur faire voir à travers notre vie, leur faire voir qui est Dieu, leur faire voir comme il est extraordinaire, comme il est bon, comme il est grand, comme il est rempli d'amour. Alors, à nous côtoyer, les gens devraient goûter et voir combien Dieu est bon. À nous regarder vivre, nos voisins qui nous regardent vivre devraient goûter parce qu'on est le sel et voir parce qu'on est la lumière combien Dieu est bon. Ils doivent voir qu'on a quelque chose de différent, quelque chose qu'eux n'ont pas. Une autre raison pourquoi vouloir devenir un influenceur, bien parce qu'on aime les gens. On les aime et on ne veut pas les laisser dans leur état de perdition, premièrement. On ne veut pas les laisser dans une vie, vivre une vie qui n'en vaut pas la peine. On les aime assez pour savoir que ce qu'il y a de mieux pour eux, c'est de rencontrer Dieu et de vivre une vie pour sa gloire. De vivre une vie qui lui est consacrée. Ils n'ont pas besoin de quelque chose d'autre, ils ont besoin de connaître personnellement Jésus, de connaître son amour, son plan de salut, de se réjouir en lui, puis de faire de lui leur plus grand bien. Ça devrait être le désir qu'on a pour nos enfants, oui. Hein, souvent, ce désir-là, on l'a pour nos enfants, mais est-ce qu'on l'a pour nos voisins? Est-ce qu'on l'a pour nos collègues de travail? Est-ce que nos collègues de travail savent même qu'on est chrétien? Est-ce qu'on brille pour Jésus devant eux? Pour tous les gens qui nous entourent, on devrait avoir ce désir-là, les aimer tellement qu'on a le goût de partager notre foi. Souvent, quand la première journée, quand les enfants arrivent au camp, j'aime ça les regarder, puis d'avoir cette pensée-là dans ma tête. C'est-à-dire, « Hey, toi, il faut que tu apprennes à connaître Dieu. Je t'aime, puis je veux que tu apprennes à connaître Dieu. Ça peut transformer ta vie. Si je fais rien, peut-être que toi, tu es en direction directe vers l'enfer, séparé de Dieu pour l'éternité. Fait que je veux te partager l'Évangile. » Et une autre chose, pourquoi on devrait avoir le désir de devenir un influenceur, c'est parce que si ce n'est pas nous qui les influencent, quelqu'un d'autre va les influencer. On est tous influencés par des gens. Et si nous, les chrétiens, on ne joue pas ce rôle-là d'influenceur, ben, quelqu'un d'autre va le faire. Et dans la société où on est, qui va les influencer? Mais justement, la société, les réseaux sociaux, hein, ils passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Les voisins, leurs amis, leurs enseignants qui peuvent leur apprendre beaucoup de choses très bien, les enseignants, mais ils n'ont pas toujours des valeurs extraordinaires. Fait que si nous, on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est de voir, on dirait que il me manque des choses aujourd'hui. OK. On continue comme ça. Alors, c'est ces cinq raisons qui, moi, me motivent à dire « il faut que je brille pour Dieu ». Et peut-être que vous allez me dire « ouais, mais je ne suis pas parfaite, hein? » C'est comme notre ami tantôt a dit « oui, mais peut-être que je dois protéger les autres de mon influence. » Parce que mon influence n'est pas toujours la meilleure. Alors, peut-être que vous allez me dire ça. Oui, mais je ne suis pas parfaite. Mais j'ai le goût de vous dire, mais c'est excellent. C'est juste qu'est-ce qu'il faut si vous n'êtes pas parfait. Parce que les gens que vous voulez influencer ne sont pas parfaits non plus. Et si vous leur laissez croire que vous êtes parfait, que vous n'avez jamais de défi, que vous n'êtes jamais découragé, que vous ne tombez jamais, que vous êtes fidèle au Seigneur tout le temps, bien, ça va être décourageant pour eux de dire « oui, mais moi, je ne suis pas capable ». Il y a souvent des jeunes qui m'ont dit « oui, ça a l'air facile, la vie chrétienne, pour vous. Ça a l'air facile. » Non, ce n'est pas facile. J'ai des combats, j'ai des déceptions, j'ai des découragements. Et il faut que les gens qui soient autour de nous le sachent puis le voient. C'est une des façons pour lesquelles on peut les influencer, dire « oui, je suis tombée, mais regarde, je me suis relevée, j'ai demandé pardon. » Et c'est un petit peu le problème face aux influenceurs. Quand on suit des influenceurs, ben, ils ne prennent pas de photos d'eux le matin en se levant, alors qu'ils ont les cheveux tout ébouriflés et qu'ils ne sont pas maquillés. Non. Hein, les influenceurs veulent montrer la perfection. Puis il y a un journal qui s'appelle le Nouvelliste, que vous avez ici en Suisse, qui dit « Sur les réseaux sociaux, les adolescents suisses consomment surtout des contenus aux émotions positives. » Il faut que ça soit positif. Et à l'apparence attractive, une apparence qui nous attire. Comparer sa vie à celle prétendument parfaite des influenceurs peut avoir, cependant, un impact négatif sur la santé psychique. Ils se rendent compte que de toujours se comparer à ces influenceurs-là, puis plus tard dans l'article, ça dit que les influenceurs sont surparfaits, sont pas parfaits, sont surparfaits, et que leur monde est idéal. Mais si on se compare à des gens comme ça constamment, c'est décourageant. Et ça peut affecter le mental. Ils se rendent compte que les jeunes qui consomment beaucoup, là, qui sont souvent vers les influenceurs, ils sont affectés par ça. Leur estime d'eux-mêmes n'est pas bonne. Ils se comparent à la perfection. Nos jeunes chrétiens, les jeunes qui nous entourent, doivent se comparer à des gens qui ont des luttes, qui ont des combats, qui ne sont pas parfaits, qui sont aussi des pécheurs, tout comme eux. Alors, c'est excellent si vous n'êtes pas parfait. Vous êtes les candidats idéaux. Vous avez le profil de l'emploi, mesdames. À moins qu'il y ait quelqu'un de parfait dans la salle et je ne sache pas. Non? OK. Il y a des gens que je connais ici que je dirais qui frôlent la perfection. Mais ce n'est pas le cas encore. Personnellement, le personnage biblique qui a le plus d'impact dans ma vie, mon personnage préféré, je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce personnage préféré-là, c'est David. J'aime énormément le personnage de David. C'est un personnage très, très important dans la Bible. C'est le personnage, après Jésus, dont on parle le plus. Si je ne me trompe pas, il y a 66 livres de la Bible qui racontent son histoire. Il a écrit, on lui attribue la moitié des psaumes. C'est un homme. À deux reprises, on dit un homme selon le cœur de Dieu. Wow! J'aimerais qu'on puisse dire ça seul de moi. Deux reprises, un homme selon le cœur de Dieu. Wow! Mais quand on lit l'histoire de David, on s'aperçoit que, wow, il n'était pas si parfait. Est-ce qu'il était un bon père, David? Je pense pas. Il n'a pas témoigné tellement. Ce qu'on lit avec ses fils, c'est pas nécessairement un bon père. Bon, il a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a caché sa faute au lieu de confesser tout de suite. Il a caché sa faute. Il a menti. Il a fait tuer Uri pour sauver sa réputation parce que Bathsheba est enceinte. Puis à plusieurs reprises, on voit qu'il a désobéi. Par exemple, il a fait un recensement alors que Joab lui avait dit de ne pas le faire. Est-ce qu'il était parfait? Est-ce qu'il projette l'image de quelqu'un de parfait? Non. Puis moi, je suis tellement reconnaissante que la Bible ne nous met pas que des personnages parfaits. En fait, je pense qu'il n'y a aucun personnage dans la Bible dont on n'a dit que du bien. Je pense pas. S'il y en a, vous me le direz, mais de mémoire, il me semble qu'il y a peut-être une personne, mais en tout cas, je pense pas. Hein? Y en a-t-il des personnages parfaits dans la Bible? Lequel? Enoch. Ouais. Il n'y a pas tant de versets qui parlent de lui, mais moi, Enoch. Un verset! Ah bon! Heureusement, dans ce seul verset qui parle de lui, on n'a pas dit de mal. Mais David, on voit qu'il a fait beaucoup de choses. Il a commis tellement, tellement d'erreurs. Puis je suis reconnaissante parce que la Bible ne nous met pas un standard de « faut que tu sois parfait pour être un homme selon le cœur de Dieu. Faut que tu sois parfait! » Parce que moi, je n'atteindrai jamais. Je suis une femme d'action. Et généralement, les gens d'action commettent plus d'erreurs. J'aime être dans l'action, mais quand on reste tranquille chez nous, on ne commet pas beaucoup d'erreurs. Et David a commis tellement d'erreurs. Mais D'un autre côté, ça c'est un côté de la vie de David, mais de l'autre côté, on peut être enchanté de ce qu'on voit de lui. Il y a quelqu'un, il y a une table qui a le micro, puis il y a des versets à lire, hein? Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le verset du psaume 18.1, puis ensuite, je vous demanderai, il y a une table où il y a un micro, hein, ils vont nous lire les versets que j'ai écrits ici pour que vous entendiez un peu d'autres voix, puis que vous vous reposiez un peu de mon accent québécois. Alors, qui peut nous lire le psaume 18.1?
« Je t'aime, ô Éternel, ma force. »
Beaucoup de versets dans les psaumes témoignent de l'amour que David avait pour Dieu. Il aimait Dieu. C'est un des éléments qui fait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit d'autre de lui, dans le psaume 63, verset 1?
« Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Je te cherche au point du jour, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau.
Il avait soif de Dieu, il se languissait de Dieu. Languir, c'est un terme assez fort, hein? Il se languissait de Dieu, il avait soif de Dieu, il aimait passer du temps en sa présence, il voulait être près de Dieu. C'est un des éléments qui fait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Quoi d'autre? Si on lit le prochain texte dans 1 Samuel 17, 45 à 46.
David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. »
Alors qu'il aurait dû être terrorisé devant ce colosse-là qui se tenait devant lui, lui, un simple berger, tous les soldats de l'armée étaient terrorisés, mais lui, un simple berger, qui arrive et qui dit « Hey! » Il est en train d'insulter mon Dieu, en train d'insulter son peuple. Oh, on ne laissera pas faire ça. Il avait la foi. Il était certain qu'il allait abattre Goliath. Il n'y avait pas besoin des armes de Saül. Il n'y avait pas besoin de l'épée de Saül. Un petit caillou, une fronde, ça lui suffisait. Il voulait défendre l'honneur de son Dieu. Et il était certain qu'il allait tuer, couper la tête de ce colosse et la donner en nourriture aux animaux. Mais il avait une foi! Il ne se laissait pas impressionner par Goliath, parce que David savait que le seul géant sur le terrain, le seul géant, c'était pas Goliath! C'était Dieu le géant sur ce terrain-là! Puis Dieu était avec lui! Hein? Je viens au nom de Dieu! Du maître, qu'est-ce qu'il dit? Le maître de l'univers, là? Quelque chose, une expression comme ça, hein? Mais je viens au nom de Dieu! « Tu me fais pas peur, espèce de nain, minus! » Il avait une foi en Dieu extraordinaire. C'est une des choses qui faisait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. J'ai mis autre chose, je pense. OK, oui, dans le psaume 119, versets 24 et verset 97. On n'ira pas jusqu'à 97, on pourrait tous les lire parce que c'est un psaume extraordinaire. On va se contenter de ces deux versets-là.
Tes instructions pour mon plaisir, ce sont mes conseillères. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée.
Il aimait la loi de Dieu. Dans le psaume 119, ça dit que la loi de Dieu, c'est un trésor plus précieux que n'importe quoi d'autre. Il dévorait la loi de Dieu. Nous, on a le privilège d'avoir la Bible entière, sa parole entière. En combien de copies dans nos maisons? Est-ce qu'on dévore ce livre-là? Est-ce qu'on dévore la parole de Dieu? Est-ce que c'est... On apprécie les moments où on peut lire la parole de Dieu. Et je sais très bien qu'en tant que maman, c'est parfois très difficile d'avoir un temps pour s'asseoir tranquille puis dire, OK, là, j'oublie tout ce qui est autour de moi puis je lis ma Bible. Très difficile. Je le sais. Et quand j'étais maman aussi, puis même encore maintenant, dans le brouhaha de toutes les activités, j'ai de la misère à des fois à prendre ce temps. Mais je veux avoir cette relation avec Dieu. Fait que je me dis, OK, quand je suis seule dans ma voiture, je parle à Dieu. Quand je fais des fois le ménage de la maison, j'écoute un message qui me parle de Dieu. J'aime passer des moments avec Dieu parce que c'est toujours des moments bénis. Alors, il faut, même si c'est difficile, trouver des moments, des fois utiliser notre créativité, notre imagination pour avoir ces moments-là, mais il faut, comme David, être des gens qui aimons la parole de Dieu, qui aimons passer ces moments-là avec Dieu. Fait que c'est certains des éléments, j'aurais pu probablement en mettre plus, des éléments qui font en sorte que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et oui, il a commis des erreurs épouvantables, mais quand il commettait des erreurs, il finissait toujours par se repentir, par être abattu à l'idée du péché qu'il avait commis et demandait pardon à Dieu. Et c'est ça que les gens qui sont autour de nous ont besoin de voir aussi. Moi, ça m'encourage de voir David. Puis les gens qui sont autour de nous, on ne veut pas leur montrer une image de quelqu'un de parfait. On veut leur montrer une image de quelqu'un qui a des moments de découragement, des chutes, des erreurs, mais qui se tourne vers Dieu et qui se sent toujours accueilli et aimé de Dieu. David, dans ce verset-là, il montre bien, hein, il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'était là son cœur. Il voulait avoir un cœur pur. Non, il n'y arrivait pas toujours. Il voulait avoir un esprit bien disposé. Et j'aurais voulu qu'on lise un verset. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai mis à quelque part, ce verset-là? Le verset dans Psaume qui dit que Dieu, c'est David qui écrit, il dit « Dieu sait de quoi nous sommes faits. » Dieu, il sait qu'on est des pécheurs. Nos attentes sont probablement, par rapport à nous, plus élevées que lui. S'il y en a un qui nous comprend parce qu'on est pécheurs, c'est bien lui. Il connaît le péché bien plus que nous, il connaît notre cœur bien plus que nous. Il sait qu'on est des pécheurs, il s'y attend. Oui, ça l'attriste. Mais il s'y attend, puis il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Et il faut que nos jeunes sachent que, oui, on n'est pas parfait, mais ils n'ont pas besoin de modèles parfaits. Ils ont besoin de modèles qui sont authentiques, des gens à qui ils peuvent s'identifier. Psaume 103. OK, oui, tu peux nous lire? Oui. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Fait que quand on pêche, il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts et à nous pardonner. Puis les jeunes, les gens qui nous entourent doivent savoir ça parce que plusieurs sont découragés dans leur vie chrétienne parce qu'ils ont encore tombé. Ça fait 5 fois, ça fait 10 fois. Je lutte avec ce péché-là, puis ça me décourage. Oui. Mais puis, continue. Continue d'avancer, relève-toi, puis continue d'avancer. L'important, ce n'est pas de comment on tombe, mais c'est d'être capable de se relever. Mais comment devenir un bon influenceur? Alors, on veut être des influenceurs, on veut être des bons influenceurs. Et j'aimerais vous présenter quelqu'un qui a été un influenceur pour moi. Il s'appelle William Roy Buttry. Il est mort à l'âge de 100 ans, le 1er août de l'été dernier. Et cet homme-là a été une grande influence sur moi. Mes parents, j'aurais pu nommer mes parents, parce que mes parents ont une grande influence sur moi aussi, parce qu'en tant que parent, on a cette influence-là. Si on est des chrétiens sérieux, on a une influence qui peut avoir une portée éternelle sur nos enfants. Mais cet homme-là, il a une grande influence sur moi. C'est un homme qui a quitté l'Ouest américain pour venir au Québec, apprendre le français. Il a débuté notre église, l'église où je suis présentement, et il a aussi débuté le Camp Brochet, où on œuvre mon mari Pierre et moi. Et j'ai commencé à travailler avec lui à l'âge de 16 ans. Je peux vous dire qu'à l'âge de 16 ans, c'est un homme très exigeant et perfectionniste. Il aurait pu être un Suisse, je pense. Pour moi, il devait avoir du sang suisse à quelque part. Et il était très exigeant. Puis je me rappelle qu'à l'âge de 16 ans, je trouvais qu'il exagérait. il nous faisait travailler, il était très sérieux, il était prêt à faire beaucoup de sacrifices, il voulait vraiment servir Dieu. Et je le trouvais décourageant, mais plus tard, en grandissant moi-même spirituellement, j'ai compris ses motivations. Et il m'a influencée parce que c'était un homme qui aimait profondément Dieu et qui le servait avec ferveur. Chantal, tu l'as connu? Es-tu d'accord avec moi? Ouais. Chantal a grandi dans la même église où je vais. Et il était vraiment quelqu'un, un homme d'action, un homme fonceur, un homme qui voulait servir Dieu, qui avait à cœur les gens et qui avait à cœur leur croissance spirituelle. Puis, il m'a donné ce désir-là. Bien, on a pris sa relève au camp, à l'église aussi d'ailleurs, mais c'est de voir son modèle, voir que, comment il travaillait avec ferveur, comment il avait à cœur la croissance spirituelle des gens. Comment il parlait de la Bible aussi avec passion. Il était passionné, entre autres, des différentes époques, puis de l'Apocalypse et tout ça. Puis il nous parlait de ça avec passion. Et il a vraiment eu un grand impact sur moi. Puis je remercie Dieu d'avoir mis cet homme-là sur mon chemin. Et je sais que Dieu a mis des gens sur votre chemin. Des gens qui ont eu un grand impact. Puis dans cette question-là, qu'on se pose, comment devenir des influenceurs, j'ai pensé vous mettre un petit peu au travail ce matin. J'ai pensé vous inviter à réfléchir à une personne qui a eu une influence sur votre vie spirituelle. Alors, une personne, ça peut être quelqu'un qui a encore une influence sur votre vie spirituelle. Puis à vous demander, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a eu un impact sur moi? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne-là? Quelle attitude elle a eue? Quand je pense à elle, qu'est-ce que je vois? Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous preniez quelques minutes pour réfléchir en silence à une personne qui a eu cet impact-là sur vous. Et qu'après, vous vous mettiez en petite équipe, vous êtes en table, alors il peut avoir ça peut être une équipe qui comprend la table au complet ou faire deux petites équipes. Vous avez des papiers, des crayons, puis écrire. Le nom de la personne n'est pas important. C'est qu'est-ce qui est important, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quels sont les éléments qui font en sorte qu'elle a eu cet impact-là, cette répercussion-là dans ma vie? Êtes-vous prête à faire ça? Pardon?
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, Marie-Louise me dit tout à fait. Alors, prenez quelques minutes. Pensez personnellement et quand vous êtes prête, partagez avec les autres et écrivez parce que j'aimerais bien que vous nous fassiez un retour et que vous nous disiez exactement c'est quoi ces gestes-là, c'est quoi ces attitudes-là, qu'est-ce que cette personne-là a fait pour vous. Ça va? Alors, je vous laisse quelques temps pour faire ça. Alors, travaillez bien.